La chronique argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
On va aller rejoindre Sylvain Larocque, qui est journaliste économique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Sylvain.
Salut
Patrick. Hey, dis-moi, on parle souvent de congestion à l'urgence et de l'attente sur civière qui peut s'étirer parfois en jour. Là, ce qu'on voit, c'est que au port de Montréal, on a un petit peu le même problème. Là, c'est pas avec des patients ni des civières, mais c'est vraiment en train d'empirer.
Ouais, c'est moins grave que des patients, on s'entend. Là. C'est des boîtes de métal, je pense qu'ils peuvent attendre un peu, mais oui, quand même, on a eu des chiffres assez étonnants. Mon collègue Martin Jolicoeur écrivait là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, en fait, c'est encore la chaîne d'approvisionnement là, qui nous cause des problèmes. Et donc, là, il y a 30% de plus de conteneurs dans le port de Montréal qu'en temps normal. Et le temps d'attente moyen est passé de 4 jours à quasiment 13 jours. Et donc, c'est quand même assez... je pense qu'on peut parler vraiment d'un engorgement. Et c'est ça, comme je le disais, c'est la question de la chaîne d'approvisionnement qui arrive, en gros, si on résume là, rapidement. Il y avait des sortes de retards pour plein de produits parce que les gens, pendant la pandémie, se sont mis à acheter des produits plutôt que des services. Donc là, il manquait de produits. Donc là, les commandes étaient en back-order et tout ça. Et là, ce qui est arrivé, c'est que finalement, les produits qui avaient été commandés il y a plusieurs mois sont arrivés. Et les entreprises, pour se prémunir contre de futures ruptures de stock, avaient aussi commandé à l'avance d'autres produits. Donc, tout arrive en même temps. Les produits en retard et les produits qui ont été commandés en avance, tout arrive en même temps. Et là, ça arrive au port et ça reste là parce que les entreprises clientes sont moins pressées qu'avant d'aller chercher leur stock parce que soit qu'ils n'en ont pas besoin ou c'est pour plus tard. Donc, on se dit, bon, on peut les laisser là de toute façon. Et il y a des pénalités au port si tu laisses traîner tes conteneurs trop longtemps. Mais c'est pas qu'on parle de quelques centaines de dollars quand c'est des conteneurs qui peuvent valoir plusieurs centaines de milliers de dollars, voire des millions. Ben là, les gens disent ça coûte moins cher de laisser ça là que d'aller le chercher. Donc, c'est assez spécial comme situation, effectivement, et ça montre comment les soubresauts du commerce mondial peuvent avoir des impacts jusqu'à dans notre cours arrière, c'est le cas de le dire.
C'est drôle parce que c'est comme si le port de Montréal devenait un entrepôt de façon bien involontaire. Je disais dans l'article qu'on est passé d'une approche just-in-time qui était l'approche qui prévalait. Tu me corrigeras, mais ça, c'est on s'organise pour que ça arrive quand on en a besoin puis pas avant parce que sinon, justement, faut l'entreposer. Mais là, les pénuries étant ce qu'elles sont, puis c'est tellement imprévisible de savoir qu'est-ce qui allait arriver. Là, on commande au cas où on en aurait besoin. Puis quand on est capable, puis on verra qu'est-ce qui se passe. Puis là, c'est ça, tout fout le camp.
Exactement, c'est ça. Fait que c'est un peu plate pour le port de Montréal qui paie finalement pour ces problèmes mondiaux qu'on a. Mais il y a de l'espace d'entreposage. C'est ce que les gens de Cargo M, la grappe de la logistique à Montréal nous disent. Il y en a des entrepôts qui sont disponibles. C'est juste que les gens prennent pas la peine d'aller chercher leur marchandises. Il y a un petit peu de paresse et de négligence dans tout ça. Mais bon, comme je le disais tantôt, on parle de conteneurs, on parle pas d'humains, donc. C'est pas la fin du monde, mais c'est sûr que si ça devenait vraiment engorgé puis que là, on n'y avait plus de place pour mettre le stock à un moment donné, c'est sûr que là, ça pourrait nous nuire à nous comme consommateurs parce qu'on ne pourrait pas avoir les produits dont on a besoin tout de suite, là.
Ben, c'est ça, parce que l'année passée, c'était environ, 5 jours, le séjour moyen, là, c'est 8 jours, au début de l'année, 13 jours maintenant, on a 30%, ça s'accumule, là, tu dis, on avait 30% de conteneurs de plus, si à un moment donné, on se ramasse à 15 jours, 16 jours, il va manquer de place.
Exactement, c'est ça. Ça s'empire de jour en jour et donc là, ils doivent trouver une solution là-dessus. J'imagine qu'il y a des gens qui vont se mettre sur le téléphone, qui vont appeler les clients en leur disant « Venez chercher votre stock » ou est-ce qu'ils vont devoir augmenter les pénalités pour les jours de retard et tout ça. J'imagine que c'est des questions qui vont se poser éventuellement.
Ça va être intéressant de voir quelle va être la réponse. Tu veux nous parler d'une pâtisserie qui a fait faillite et qui a emporté avec elle presque 8 millions de dollars en fonds publics. C'est quoi ça?
Oui, pâtisserie Gaudet, je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais c'était des tartes et des tartelettes qu'on voyait beaucoup dans les grandes surfaces. Ils avaient même un contrat à un moment donné chez Walmart aux États-Unis. Okay. Des tartelettes qui étaient quand même à bas prix. Aux fruits, il y avait plusieurs fruits, là, cerises, citrons, je me rappelle, bleuets, tout ça. C'était pas les meilleures tartes qu'on pouvait trouver, mais c'était des produits quand même abordables. Moi, j'en ai déjà acheté. Il y avait les petits formats aussi qu'ils vendaient comme 99 sous. On les voyait donc partout. C'était une usine importante située à Actonville, donc une entreprise importante dans cette région-là. Et là, ils ont comme fait faillite du jour au lendemain. avec plus de 20 millions de dollars de dettes. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui dans le journal, c'est qu'il devait 8 millions de dollars au gouvernement. Le gouvernement qui avait fait plusieurs prêts au fil des ans à cette entreprise-là depuis 2016, et ça avait commencé par un prêt de 700 000 $ pour une nouvelle usine, ensuite un autre million de dollars pour une deuxième ligne de production, ensuite 2,2 millions de dollars pour le fonds de roulement. Et là, quand on parle du fonds de roulement, c'est parce que ça donne une indication que ça va peut-être moins bien que ça allait. On a du mal à payer les comptes et tout ça. Et l'année passée, encore un autre prêt de 2 ou 3 millions l'année passée. Non, 4 millions. Donc moi, ce que je me demande quand même dans ce dossier-là, oui, c'est une belle entreprise qui exportait et tout ça, mais qu'est-ce qui fait que le gouvernement continuait à donner de l'argent à cette entreprise-là, à prêter de l'argent à cette entreprise-là, alors que ça allait peut-être moins bien, ce qu'ils ont bien vérifié les états financiers de l'entreprise et tout ça. Je pense que la question se pose parce que c'est quand même bizarre de voir une compagnie qui fait faillite quelques mois après avoir reçu des prêts du gouvernement. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné quelque part.
Ben oui, là, de un, mais de deux, c'est des tartes. Pourquoi le gouvernement va investir dans des tartes? Je veux dire, non, mais c'est parce que, tu sais, des fois, tu peux dire, OK, il y a certains secteurs qui sont stratégiques, puis là, tu dis, mettons, l'aéronautique. Là, si, mettons, l'aéronautique, on soutient pas ça, là, t'as une expertise très pointue qui peut partir, qu'on récupère pas, puis là, ça a toutes de conséquences. Il y a un débat chez les économistes, mais tu sais, à la limite, il y a une certaine rationalité. Mais des tartes?
Oui, non. Ben, c'est sûr que c'est pas un secteur stratégique. Quoique là, avec la pandémie, on s'était mis à dire il faut assurer notre souveraineté alimentaire et donc produire plus d'aliments ici et tout ça. Ouais. Et moi, je suis sensible quand même à l'argument de développement économique régional. On parle d'une centaine d'emplois ici dans la région d'Actonville, donc c'était pas négligeable comme employeur. Mais c'est sûr qu'on peut se poser la question, est-ce que c'était le bon moyen d'intervenir? Est-ce qu'il y aurait pas eu d'autres façons d'aider cette entreprise-là? Essayer de replacer leurs affaires, de se redresser. Parce que là, c'est pas en garochant de l'argent comme ça public sur une entreprise qui va mal, qu'il y a des problèmes structurels, que tu vas régler le problème. Ça, c'est sûr et certain.
Parce que moi, si j'avais une entreprise qui fabriquait des tartes et qui allait bien, je serais un petit peu fâché que mes impôts d'entreprise servent à financer une entreprise qui tombe en faillite. Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. On se reparle demain. Merci.
Salut, à demain.
Au revoir.